Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Focus Sahel, dans cette émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu, ce soir, au Soudan, Washington accuse les FSR de commettre un génocide et impose des sanctions, tandis que l'ONU alerte sur une crise humanitaire et alimentaire sans précédent. Les évêques catholiques du Cameroun dénoncent des crises et incertitudes politiques et sociales à l'approche de la présidentielle. Nous nous rendrons au Niger, où la lutte traditionnelle, le véritable sport emblématique, joue un rôle essentiel en tant que vecteur culturel et facteur de renforcement de la cohésion nationale. Enfin, le fait marquant de la semaine nous amène au Tchad. Mahamat Idriss Déby a réagi à l'attaque contre son palais, rendant hommage à ses soldats et dévoilant des vidéos de l'assaut. Mais l'opposition remet en question la version officielle. Merci de nous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Encore une fois, bienvenue. Les États-Unis accusent les forces de soutien rapide FSR d'avoir commis un génocide au Soudan, imposant des sanctions contre leur chef, Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Ce conflit entre l'armée et les FSR, qui dure depuis 20 ans, a causé des dizaines de milliers de morts et déplacé 12 millions de personnes. Face à une famine alarmante, l'ONU appelle à une mobilisation internationale pour secourir plus de 30 millions de personnes. Le point avec Michel Claire-Joseph.
À Port-Soudan, capitale de facto du pays, l'église accueille des centaines de milliers de déplacés en quête de réconfort. Dans une église catholique, un prêtre entouré de lumières scintillantes dirige une prière pour la paix et le retour des familles dans leur foyer. Fatma Mohamed, une Soudanaise déplacée, exprime avec émotion son espoir de retrouver une vie normale.
Nous en avons assez d'être déplacés. Nous espérons que les autorités nous entendront et mettront fin à la guerre afin que nous puissions retourner dans nos maisons et que nos enfants puissent retourner dans leurs écoles et vivre dans un pays calme et heureux.
L'ONU estime que plus de 30 millions de personnes au Soudan ont besoin d'aide, dont la moitié sont des enfants. Christopher Lockyer, secrétaire général de Médecins sans frontières, décrit l'ampleur de cette tragédie humanitaire.
Ce que nous voyons ici, c'est une catastrophe de grande ampleur en termes de besoins humanitaires, mais aussi un échec humanitaire mondial en termes de réponse. Les besoins sont aigus dans tous les domaines, qu'il s'agisse de nourrir les gens ou de traiter les patients, et pourtant la réponse que nous voyons au niveau mondial est minuscule par rapport à ce que doit être fait.
L'administration américaine, par la voix du secrétaire d'État Anthony Blinken, a officiellement qualifié les crimes perpétrés par les forces de soutien rapide de génocide, citant des meurtres systématiques et des viols ciblés sur base ethnique. Une série de sanctions vise Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, chef des FSR. Adam Rojal est engagé dans la défense des droits des Darfouriens, membre de la coordination générale des personnes déplacées et des réfugiés du Darfour.
La communauté du Darfour est bien consciente des crimes et des violations subies. Pour elle, ces actes de génocide, de nettoyage ethnique, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité font malheureusement partie de leur quotidien. La reconnaissance par la communauté internationale et les grandes puissances représente pour eux une victoire et un pas vers la justice.
Bien que la guerre continue de ravager le pays, les habitants gardent espoir, comme Mohamed Abdel Hassan, avocat soudanais.
Je souhaite que la paix règne au Soudan, que Dieu éteigne les feux de la guerre. Chaque goutte de sang versé au Soudan est une perte énorme.
L'ONU réclame une mobilisation internationale sans précédent lançant un appel de fonds de 4,2 milliards de dollars pour soutenir les 20,9 millions de personnes en détresse. Des voix s'élèvent également pour demander la paix et un retour à la stabilité. Mais l'urgence, comme le rappelle MSF, reste d'acheminer de l'aide massive pour prévenir une famine catastrophique au Darfour. Une situation que beaucoup qualifient de véritable test pour la solidarité mondiale.
Pour continuer la conversation et avoir une vue globale sur le sujet, nous avons en ligne l'historien Gérard Prunier, spécialiste de la Corne et de l'Afrique, c'est l'invité de cette édition de Focus Sahel. Monsieur Prunier, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Focus Sahel. Comment évaluez-vous l'impact de la reconnaissance du génocide par les États-Unis sur la situation au Soudan? Pensez-vous que cela pourrait réellement contribuer à réduire les violences?
Pas du tout. Parce que ce genre de déclaration est largement, pour les médias internationaux, la réalité de l'impact que ça peut avoir sur la vie réelle des gens qui sont pris là-dedans est très très faible.
Certains experts considèrent le Soudan comme un cas sans solution possible en raison de la complexité du conflit. Partagez-vous cette analyse ou existe-t-il encore une voie de sortie viable pour ce pays?
S'il y a une voie de sortie, personne ne la connaît. Parce que il y a eu des tentatives de négociation en Arabie Saoudite qui ont tourné à court à chaque fois, et il n'y a aucune piste claire ou même à moitié claire qui peut être distinguée pour essayer de résoudre la crise.
Alors, quels acteurs à la fois internes et externes joueraient un rôle crucial dans la fin du conflit au Soudan, et quels moyens, en dehors des sanctions, seraient nécessaires pour parvenir à une solution durable?
Effectivement, on est revenu un petit peu à la guerre froide. Parce que pourquoi est-ce que les Américains déclarent qu'il y a un génocide au Soudan? C'est essentiellement pour bloquer les tentatives russes pour arriver à prendre pied de l'autre côté, du côté gouvernemental, enfin gouvernemental si on peut dire, de l'armée régulière. Et donc, en fait, même la déclaration de génocide est elle-même un enjeu dans un duel diplomatique international avec les Russes d'un côté et les Américains de l'autre, le genre de choses que l'on a bien connues il y a 50 ans.
Quel est votre avis sur la reprise de Ouad Madani par l'armée après plus d'un an de contrôle paramilitaire? Est-ce un signe de la montée en puissance de l'armée et d'une évolution potentielle dans la dynamique de pouvoir au Soudan?
C'est possible. C'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais c'est dans cette direction-là que ça va. Parce que jusque-là, tous les progrès militaires étaient venus peut-être, enfin surtout, du côté des métis. Là, c'est pas la même chose. Et ça tient à quelque chose en partie, c'est le fait que les Émirats arabes unis qui soutiennent les métis, à l'heure actuelle, commencent à se poser des questions, plus les Américains font une grande pression sur les Émirats arabes unis pour essayer de les détacher du soutien à Emeti.
Oui, on parle souvent de deux belligérants, l'armée d'un côté et Emeti de l'autre, mais il y a plusieurs factions dans ce conflit.
Écoutez, je parlais récemment à quelqu'un qui a un regard extrêmement proche et sérieux sur la situation soudanaise et qui me parlait de 21 factions. Alors, il est bien évident que ces 21 factions n'ont pas toutes le but de prendre le pouvoir ou ce qui en reste. Ce sont beaucoup plus des mouvements locaux, régionaux, ethniques, qui se cachent ensuite sous les jupes de Méti ou de Bourrin pour essayer de globaliser le combat qu'ils mènent et qui est en général un combat extrêmement local.
Est-ce qu'ils obéissent aux ordres des deux ou c'est pour recevoir des armes et après ils ne sont pas contrôlables.
Eh bien, écoutez, ils veulent avoir des armes, bien sûr, mais ils n'obéissent aux ordres de personne. C'est d'ailleurs une des raisons de l'extraordinaire brutalité du conflit, parce que on dit un tel a commis ceci, un tel a commis cela, on oublie de mentionner que la plupart des troupes, enfin surtout du côté des métis, mais c'est en partie la même chose pour les auxiliaires de l'armée régulière, n'ont plus personne qui les contrôle.
Face à la crise humanitaire qui touche plus de 30 millions de Soudanais, quelles sont selon vous les actions immédiates à mettre en place pour répondre à cette urgence et quelles initiatives internationales seraient les plus efficaces?
Bon, évidemment, quelque chose, Nations Unies, UNICEF, etc., mais c'est évidemment un bouche-trou. Parce que quand on a en face de soi 30 millions de bouches qui s'ouvrent, même une aide humanitaire conséquente ne peut pas réellement faire face au problème.
Monsieur Prunier, ne partez pas. Nous avons quelques réactions de certains de nos auditeurs sur notre plateforme Facebook et j'aimerais avoir votre commentaire après. Alphonse Mbouaki, il dit ceci. L'Union africaine doit créer une armée forte pour intervenir dans les conflits, neutraliser les forces destructrices et protéger les populations innocentes. Le Conseil de sécurité symbolique est incapable d'agir. Il faut aussi établir des structures humanitaires pour les déplacés et appliquer des sanctions sévères contre les auteurs de violences. Commentaire signé Alphonse Mbouaki. Djibo Abdou Abdoulaye dit ceci, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, doit rencontrer les deux belligérants pour obtenir un accord de cessez-le-feu afin de venir en aide aux déplacés. Par la suite, il devra alerter les puissances soutenant les deux généraux pour qu'elles cessent leur aide et soutiennent l'instauration de la paix. Omar Yemboani, il dit, je suis d'accord qu'il faut mettre fin à la guerre au Soudan, où la population souffre terriblement. Cependant, je trouve que les États-Unis ne sont pas en position de parler de génocide, étant eux-mêmes complices de nombreuses guerres à travers le monde. Lorsqu'il s'agit des Palestiniens, on n'entend pas les mêmes dénonciations. Enfin, Laska Sek dit ceci, je cite, la communauté internationale a laissé la situation au Soudan se détériorer sans intervenir. Les observateurs avertis savent que cette guerre résulte de convoitises croissantes et que les deux belligérants sont disqualifiés pour diriger le pays car ils sont tous deux illégitimes. Monsieur Prunier, votre commentaire ?
Et bientôt, il y a beaucoup de vœux pieux là-dedans, en disant il faut qu'il y a qu'à, mais pratiquement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour empêcher cette explosion? Et de penser que l'explosion est menée par des visées étrangères est complètement faux. Ce sont des factions soudanaises qui ont renversé le régime de Béchir en 2019 et qui ensuite ont été incapables de trouver un accord entre eux. Ce sont, si on peut dire, les vainqueurs de la révolution de 2019 qui se disputent et qui se battent. Et il aurait fallu une intervention étrangère massive du genre, et en beaucoup plus aussi important au moins que ce qu'il y a eu en Irak. Or, quand on voit le résultat de ce que ça a donné, il est probable que personne n'avait envie de le faire.
En quelques secondes, comment vous évaluez le rôle de l'Union africaine et de l'IGAD?
Oh, absolument nul. En arabe, on dirait ça, en arabe soudanais, on dirait kalam fadi. Kalam fadi. La parole vide, creuse. Pour parler, oui. Mais les gens qui disent qu'ils n'ont qu'à avoir une armée, eh ben, je leur souhaite beaucoup de courage s'ils veulent organiser une armée panafricaine.
Monsieur Prunier, merci beaucoup pour votre expertise et votre analyse sur le Soudan. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Merci beaucoup.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression,
l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington,
sur VOA Afrique. Au Cameroun, les évêques catholiques tirent la sonnette d'alarme sur la situation nationale. Lors de leur conclave annuel tenu à Boya, dans la région anglophone, ils ont exprimé leurs préoccupations face aux crises sécuritaires persistantes, à la corruption généralisée et à la mauvaise gouvernance. Selon eux, ces facteurs plongent le pays dans une incertitude grandissante, particulièrement en cette année cruciale, marquée par une élection présidentielle. Les détails, c'est dans ce reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Dans un message des évêques sur la situation socio-économique du Cameroun, les chrétiens catholiques et les Camerounais en général ont été appelés à garder confiance et à bannir la peur.
Je crois que c'est un message qui tombe à point nommé, demandant, n'est-ce pas, aux chrétiens catholiques de ne pas avoir peur. Prenez courage, d'autant plus que nous sommes dans une année électorale. Ou n'est-ce pas les uns les autres pour avoir peur. Alors les évêques demandent à chacun d'entre nous, n'est-ce pas, de prendre courage. Et ce n'est pas un discours nouveau. Le pape Jean-Paul II, depuis, il a toujours dit, prenez courage, n'ayez pas peur.
Les évêques appellent en outre les Camerounais à leurs responsabilités individuelles et collectives pour mettre en place des structures sociales, économiques et politiques adéquates. Il y a quelques jours, trois évêques, dont Mgr Samuel Clida, archevêque métropolitain de Douala, ont souhaité une transition politique à la tête de l'État en cette année électorale. Des prises de position qui ont fait réagir Benoît Fédieu, membre de la sous-commission communication du RDPC.
Vous avez pris la sortie de trois évêques. Vous avez laissé 23 autres où ? Vous connaissez ce que 23 clergés pensent sur trois et qu'une personne prend parole. Bon, vous ne cherchez plus à savoir dans quel sens il va. Ça veut dire déjà que c'est bon. Comme il fait partie de tel corps, c'est déjà général. Comme il l'a dit, c'est bon. Non, ce n'est pas ça. Par contre, nous avons dit, et je l'ai reconnu d'entrée de jeu ici, que nous sommes en démocratie, il y a la liberté d'expression, chacun peut s'exprimer.
Le gouvernement qualifie ces sorties des évêques de véhémentes, un avis que ne partagent pas certains fidèles catholiques.
Je pense que le ton de Mgr Samuel Clida, il n'est pas mauvais. Donc Mgr Samuel Clida s'adresse au chef d'État qui est le président, son président, comme s'il s'adressait à son fils et demandant à son fils, fils, je pense qu'il est temps aussi que tu te reposes parce que tu as beaucoup travaillé et merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour la nation.
La crise sécuritaire dans les deux régions anglophones et la résurgence des attaques de Boko Haram dans la région de l'extrême nord constituent également des points d'inquiétude pour les évêques du Cameroun. Un avis que soutient ce militant du MRC, le parti de l'opposant Maurice Kamto.
Nous avons toujours dit que cette guerre n'aurait pas dû avoir lieu, et que si jusqu'ici elle n'est pas terminée, c'est peut-être c'est justement parce que le gouvernement camerounais ne voudrait pas qu'elle soit terminée, parce qu'on ne va pas penser que ceux-là, que ce soit les séparatistes ou alors les extrémistes, sont plus puissants que le Cameroun, ou alors que parmi eux, on n'a pas trouvé des personnes avec qui on peut dialoguer.
Le Boko Haram dans l'extrême nord. N'oubliez pas que ce qui alimente ces terroristes, c'est la famine, c'est le chômage. Alors donc quand on arrive dans une région comme celle-là et que beaucoup de gens sont en chômage, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont même pas de l'eau à boire, il y a de fortes raisons qu'ils soient abattus.
La pression fiscale croissante sur les couches les plus vulnérables, la malgouvernance avec le mauvais état des routes, la corruption, le détournement des deniers publics sont également décriés par la conférence épiscopale du Cameroun. Le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi au message des évêques sur la situation socio-économique du Cameroun. Emmanuel Jouta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a dénoncé une attaque violente contre son palais N'Djamena, où plusieurs assaillants ont été tués. Des vidéos diffusées à la télévision nationale montrent l'assaut, tandis que certains opposants évoquent des doutes sur la version officielle, qualifiant l'incident de montage. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec le sociologue Gonde Ladiba, professeur à l'université de N'Djamena. Monsieur Ladiba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir le député de la VOA.
Alors, quelle est la perception générale du public tchadien face à cette attaque et aux révélations des vidéos diffusées?
Moi, je pense que de manière générale, c'est l'incompréhension. L'incompréhension par rapport à ce mouvement brusque des attaques contre la garde prétorienne, l'incompréhension par rapport à la durée des essais de coups de feu, qui a fait presque une heure du temps, et puis on sort des individus armés d'armes blanches et qui n'avaient pas d'explosifs sur eux, etc. Donc ça montre un peu la furiosité aussi qui anime cette garde, et peut-être aussi le manque de professionnalisme. Parce que tirer sur des individus armés des armes blanches pendant une heure et quelques minutes, c'était quand même exagéré. Ça montre un peu une certaine psychose aussi qui frappe cette sécurité. Donc, c'est ça qui fait peur un peu aux Tchadiens, pour voir que n'importe quel kidam qui demain sera en panne devant la présence risque de perdre sa vie. Donc, je crois que c'est un peu ça l'incompréhension.
Comment les médias locaux ont-ils traité cet événement?
Moi, je pense que les médias locaux n'avaient pas de bonnes informations, et puis il y avait plusieurs sources d'informations qui fusaient sans toutefois savoir avoir une parole publique. Hein. Il n'y avait pas une parole gouvernementale de manière claire pour expliquer ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ça se met un peu de désordre dans la compréhension de la chose, et chacun y allait de ses propres commentaires en mettant un peu en cause la parole de l'État et en mettant un peu en cause certaines personnes qui ont eu à prendre la parole. Donc, du coup, ça a créé un désordre. Je pense dans la manière de communiquer autour de ces problèmes.
Quel rôle jouent les rumeurs et les accusations de montage dans le débat en ligne et médiatique dans la perception publique de cette attaque?
Moi, je pense que de manière très simple, c'est dès qu'on n'a pas une parole officielle claire sur une question de crise, ça laisse libre courant aux commentaires, aux imaginations, etc. Donc, la manière dont on a géré cette crise montre un peu un amateurisme en fait en matière de communication gouvernementale. Et donc, du coup, je pense que cela a nourri aussi des imaginations et chacun a pu dire ce qu'il pense. Hein. Donc, du coup, la rumeur a été entretenue parce qu'il n'y avait pas une communication gouvernementale officielle assez claire, assez concise et présentant les faits de manière objective. Donc, du coup, c'est ça qui a créé un peu cette confusion totale.
Est-ce que c'est une affaire close ou on en parle toujours?
Ce n'est pas une affaire close puisqu'il y a des rumeurs sur les arrestations des uns et des autres, il y a des contrôles dans certains quartiers à N'Djamena. Donc du coup, moi, je pense que l'affaire n'est pas encore finie, il doit y avoir des chutes. Et du coup, c'est ça qui fait aussi cette morosité parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne pourrait pas dire que c'est uniquement cette voiture d'Ina dont le ministre a parlé qui a été la cause de ces tirs, où il y a d'autres implications. Donc, il y a vraiment des doutes. Donc, je pense qu'il y a des investigations en cours et l'affaire est certainement à suivre.
Existe-t-il une méfiance croissante envers les autorités en raison des divergences d'interprétation de cette attaque?
Moi, je ne pense pas qu'on pourrait parler en termes de méfiance. Je pense que certainement le gouvernement n'a pas voulu dire tout de suite les choses de manière crue pour ne pas alerter la population, pour ne pas aussi créer une certaine peur dans le public. Ils ont voulu peut-être garder certaines informations au frais et puis aussi jouer un peu sur la transparence en publiant certaines parties des vidéos, mais ces vidéos non plus ne sont pas assez claires. Donc je crois que c'est ça qui fait le doute en fait. Plus que de la méfiance, je pense qu'il y a le doute sur la sincérité de ce qui a été rapporté au niveau du grand public.
En quelques secondes, existait-il un précédent dans l'histoire du Tchad?
Oh non, je pense que la première fois, à part le coup d'État de 1975, c'est la première fois qu'on s'en prend comme ça à une décision républicaine. À part les rébellions qui ont pénétré dans N'Djamena, mais voir des individus de manière à parer s'en prendre aux institutions de l'État, c'est quand même assez sévère. Il y a eu des cas isolés d'un individu ou des individus, mais pas d'un groupe d'individus. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire du Tchad. Ça fait peur un peu, hein, de voir que des individus, comme le ministre l'a appelé, pieds nickelés, qui ont bu, qui ont été drogués et qui viennent s'en prendre à la présidence, quand même.
Merci beaucoup, Gonde Ladiba. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur à l'université d'Ndjamena. La lutte traditionnelle reste le sport roi au Niger, avec une histoire ancrée dans les traditions, et depuis son institutionnalisation en 1975, ce championnat national annuel rassemble toutes les régions du pays. Au-delà de sa dimension sportive, il célèbre non seulement la bravoure des lutteurs, mais aussi les richesses culturelles et renforce l'unité nationale. Cette année encore, lors de la 45e édition, les jeunes lutteurs de Niamey, Zinder, Dosso et ailleurs ont mêlé rivalité et fraternité, rappelant que son rendez-vous va bien au-delà du ring. Ce reportage d'Abdullah Razak Idrissa nous plonge dans cet univers aux traditions, rituels et cohésion nationale s'entrelacent. Suivez.
C'est en 1975 qu'a eu lieu au Niger le premier championnat de lutte traditionnelle. Les autorités d'alors visaient comme objectif de valoriser une pratique déjà ancrée dans les traditions.
Généralement, après la saison pluvieuse, quand la récolte est bonne, les jeunes s'organisent pour aller effectivement livrer des combats dans des villages voisins. Et ça, à la suite des sorties, quand les gens se relaient, reviennent dans les villages, c'est une fête le jour-là. Alors les gens partent pour montrer leur bravoure, pour montrer de quoi ils sont capables. Et surtout, aussi, c'est organisé par la chefferie traditionnelle.
D'année en année, le rendez-vous est devenu incontournable, suscitant chaque fois plus d'engouement, notamment pour ses aspects culturels authentiques.
Et le charme de la lutte, c'est l'accoutrement. Il y a le Welki, le Bantier, les Gris-Gris, les cordons magiques qui l'entourent. Il y a le rituel, le Krali, hein, la danse, la démarche. Il y a plusieurs gestes qui font partie de nos valeurs culturelles. Le vénère d'implorer les dieux ou bien les génies, même dans le préambule, le premier règlement donc de la lutte. Et dans le préambule, il est dit que quelle qu'en soit l'orientation qu'on doit donner à cette pratique physique traditionnelle ancestrale, c'est de sauvegarder ses valeurs traditionnelles.
Un des objectifs des autorités en institutionnalisant la pratique de la lutte traditionnelle, c'est aussi de favoriser la cohésion et l'unité entre les fils du pays.
Les jeunes de Tillamiri croisent les jeunes de Difa. Les jeunes de Dosso croisent les jeunes de Zander. Il y a tout un brassage, hein? Les retrouvailles entre les fils de la nation. Pendant 10 jours, cette jeunesse-là, sans distinction de race, d'ethnie et autres, se brasse, se croise, se fraternise, font la paix et créent les amitiés. Il n'y a pas plus que ça dans un pays.
Ça permet aux gens d'avoir un brassage entre les différentes institutions. Et ça permet aux gens aussi de se connaître les uns et les autres.
Des aspects culturels et unificateurs de la lutte qui façonnent toujours les plus jeunes.
Vous avez remarqué, ces derniers temps, même des congés sont donnés en fonction de la lutte traditionnelle, parce que c'est un facteur de cohésion.
Ça crée ce rapprochement, ça va permettre à tout un chacun de se reconnaître, de se connaître.
La 45e édition de cette rencontre annuelle a été remportée par un jeune lutteur de la capitale Niamey lors de la finale qu'il a opposée au sextuple champion venu, lui, de la région de Dosso. Abdullah Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles de la région. Eric Manilakiza à son micro, Michel Claire-Joseph et Trésor Matondo ont assuré la production et la réalisation et la mise en ordre de cette édition. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel. À très bientôt. Au revoir.